voix nue. Toute cette semaine, Claire Pouliborgeau rencontre Francine Leca. Ce soir, sur la table d'opération.
Bonsoir Francine Leca.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de médecine et la première femme chirurgien cardiaque en France, et nous l'espérons pas la dernière.
Oh non, il y en a beaucoup maintenant.
Votre raison de vivre, dites-vous, c'est d'opérer. Au bloc, rien ne vous rebute. Alors racontez-nous votre première incision. C'était, je crois, l'ablation d'un clou plaque.
Non, alors, vous avez dit, ma raison de vivre, c'est d'opérer. Non. Non. J'adore opérer, bien sûr. On en a parlé longuement. Combien j'aimais ce métier de soignant, puisque c'est ça, finalement. Il y a différentes façons de soigner, mais soigner. Mais c'est pas ma raison de vivre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je sais pas où vous avez été trouver cette histoire de clou plaque. Mais c'est pas inintéressant parce que ça montre bien la patience qu'il faut avoir pour devenir chirurgien. Un chirurgien, il a commencé déjà par faire, un jeune chirurgien, il a commencé par faire le minimum quand même de 7 ans d'études de médecine. C'est pas absolument rien. Ensuite, s'il veut se spécialiser, bon, il y a encore 3 ou 4 ans derrière. Et quand il rentre en salle d'opération, c'est le tout petit garçon, ou la toute petite fille, qui fait attention surtout à pas faire de bêtises, qui regarde, qui ne sait rien faire. Et quel est le rêve d'un jeune chirurgien ? Ben c'est qu'on lui laisse faire quelque chose. Parce que quand on veut faire de la chirurgie, on a forcément envie de toucher, on a la gestuelle en soi, on est des artisans. Vous imaginez le jeune menuisier qui voit pendant des années le patron qui sculpte son meuble et qui ne peut pas toucher ni au marteau, ni à la gouge, ni tout ça, il est fou. Les jeunes chirurgiens ont envie d'opérer, bien sûr. Et il faut leur apprendre. Il faut du temps, il faut de la patience. Apprendre à un jeune à opérer, c'est encore plus stressant que d'opérer soi-même, parce qu'on doit être à l'affût, qu'il ne fasse pas une erreur, ou la rattraper. Bon, on me dirait, si on apprend à conduire une automobile à quelqu'un, il faut aussi être très attentif. L'apprentissage, c'est un vrai travail. Donc vous êtes, en l'occurrence, j'étais dans un service d'orthopédie, et l'interne, ben, il tient le membre, ou il tient la jambe, ou il passe 3 compresses, c'est-à-dire, il aimerait opérer. Et la première fois qu'on m'a lâché, c'est l'expression consacrée dans le métier, la première fois qu'on m'a lâché une opération, c'était enlever un matériel, vous voyez ce que je veux dire, donc inciser, dévisser la plaque qui devait être, j'imagine, sur le fémur, retirer la plaque et refermer la peau, c'est-à-dire il n'y avait pas de quoi. C'était vraiment pas un geste très important. Mais c'était effectivement, je m'en souviens, parce que c'était la première fois où, seul, on me laissait seul. Probablement surveillé du coin de l'œil, parce qu'on surveille toujours les jeunes. On me laissait seul faire quelque chose. Et ça, c'était un grand moment. Mais attendez, aujourd'hui, vous avez un jeune de 22 ans qui est déjà ingénieur informaticien. À 24 ans, il a créé sa start-up, etc. Le chirurgien, à 29 ou 30 ans, c'est encore un gamin. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut de l'humilité et de la patience quand on veut faire ce métier. Parce que ça vient sur le tard, le moment où vous pouvez véritablement commencer à être actif.
Alors justement, pour qu'on puisse visualiser un peu les choses, vous nous en aviez un peu parlé, mais est-ce que vous pourriez quand même nous décrire ce qui se passe pendant une opération à cœur ouvert ? Le bloc, les personnes, comment vous êtes habillée, les odeurs ?
Ah là là, faut pas me lancer là-dedans, parce que ça va être long, parce que Eh oui, c'est vrai que c'est quelque chose de particulier. Je vous en ai déjà un petit peu parlé la dernière fois en vous disant que dans une salle de chirurgie cardiaque, il y a une bonne dizaine de personnes. C'est impressionnant quand il y a du monde. Ensuite, ça c'est pour, si vous voulez, je me mets à la place d'un néophyte, d'un béotien qui rentre en salle d'opération, qu'on fait rentrer. D'abord, il s'est habillé. Vous connaissez tous le vêtement des chirurgiens. Vous l'avez vu moult fois dans les séries ou ailleurs. Donc, tout le monde s'habille. Et puis, imaginons, je vous emmène en salle d'opération où vous rentrez dans la salle d'opération. Alors, les gens disent souvent, il y a des odeurs particulières. Moi, je ne les sens plus tellement. Mais enfin, c'est sûr que ça doit sentir un peu le désinfectant. Tout ça, c'est normal. Et puis, l'ambiance est plutôt gaie et dynamique. Je veux dire, c'est pas le silence d'une église avant l'opération, j'entends, hein, parce que chacun s'affaire dans son coin pour préparer ses affaires. Je vous ai dit, à la tête du malade, il y a les anesthésistes. En général, il y en a deux, l'anesthésiste et son infirmier anesthésiste. Le malade, donc, qu'on prépare avec, évidemment, toutes les désinfections adéquates, etc. Il a, je vous l'ai dit, en début d'intervention, ce qu'on appelle le technicage, c'est-à-dire qu'on va lui mettre des cathéters artériels, des cathéters veineux, l'électroencéphalogramme, l'électrocardiogramme, bien sûr, tout ça relié à des appareils, les fameux appareils bip-bip avec les courbes, etc. Parce que il va falloir, pendant l'intervention, on ne va plus voir l'enfant. Enfin, je vous parle des enfants, puisque moi, j'opère des enfants. Il va être totalement recouvert par les champs. Et donc, on va rester en relation avec lui par l'intermédiaire de tout ce qui est enregistré sur les scopes, c'est-à-dire essentiellement la tension artérielle, la pression veineuse, l'électrocardiogramme, la température, et puis l'oxygénation, enfin, un certain nombre de choses. Si l'opération a déjà commencé ou est en cours, vous avez donc en général autour de la table d'opération 4 personnes. Il y a 2 chirurgiens, 3 chirurgiens on va dire, mais dont un jeune, ce fameux interne dont on parlait tout à l'heure, 3 chirurgiens, plus la panseuse instrumentiste, qui est une personne extrêmement importante, parce que c'est elle qui va, comme son nom l'indique, passer les instruments rapidement, préparer tout. Demander à la panseuse circulante, c'est-à-dire qui elle n'est pas stérile, qui est dans la salle, lui demander tous les instruments, tous les matériaux dont on va avoir besoin, les fils et tout ça dont on va avoir besoin au cours de l'opération. Donc la panseuse circulante, elle, n'est pas stérile et prend tout le matériel dont on a besoin, les passe stérilement à la panseuse instrumentiste qui, elle, au moment donné, les passera au chirurgien. Donc, vous voyez, déjà, ça fait du monde. Et puis, alors ça, c'est la spécificité absolue de la chirurgie cardiaque, vous avez l'appareil de circulation extracorporelle, dont on parlait l'autre fois, c'est-à-dire une machine qui remplace le cœur et le poumon, avec, bien évidemment, soit un médecin, soit un technicien, ça dépend des équipes, mais enfin, quelqu'un qui est très compétent pour faire fonctionner cette machine. Parce qu'il ne faut pas oublier que le technicien, le responsable de la circulation extracorporelle, va avoir la vie du malade pendant 1, 2 ou 3 heures totalement entre ses mains. Alors, cette fameuse circulation extracorporelle, c'est quoi? Eh bien, on va bypasser le cœur. C'est-à-dire qu'on va, à l'arrivée du sang dans le cœur, on va le détourner dans un tuyau qui va aller vers la machine. Le sang va passer dans la machine pour être oxygéné, comme le font les poumons, et pulsé, comme le fait le cœur, pour être renvoyé en aval du cœur dans l'aorte. Donc on dérive, vous comprenez ce que c'est qu'une dérivation? On prend le sang avant qu'il n'arrive au cœur et on le réinjecte après le cœur. On va donc pouvoir isoler le cœur. On fait ce qu'on appelle, on clampe, c'est-à-dire on isole. Le cœur, à ce moment-là, ne reçoit plus de sang. Et quand il n'y a plus de sang qui passe dans les petites artères coronaires, vous avez entendu parler des artères coronaires, c'est les artères nourricières du cœur. Quand le sang ne passe plus dans ces artères coronaires, le cœur s'arrête.
C'est très impressionnant.
C'est très impressionnant. Et nous avons, depuis maintenant de nombreuses années, eu un élément capital pour la chirurgie cardiaque, qui est ce qu'on appelle la protection myocardique. Parce que si je vous dis que le cœur ne reçoit plus de sang et donc qu'il va s'arrêter, il va souffrir. Un organe qui ne reçoit plus d'oxygène, il va mourir en un certain temps, mais il va mourir. Donc, pour éviter que le cœur ne meure, On va lui injecter dans ses petites artères coronaires des substances froides, des substances protectrices, je ne vais pas rentrer dans les détails bien sûr, qui vont lui permettre de tenir le coup, on va dire, de tenir le coup pendant l'heure ou les deux heures ou les trois heures que va durer l'intervention.
C'est une vraie dramaturgie ce que vous nous racontez, c'est un ballet,
c'est une dramaturgie. C'est, vous savez, on a beaucoup comparé, chez nous à la ENEC, quand j'y étais, le responsable de la circulation extracorporelle était un ancien sous-officier d'aviation. Et il y a cette rigueur d'ailleurs. Et d'ailleurs, on emploie des termes de l'aviation. Par exemple, quand on va poser la circulation extracorporelle, on dit, est-ce qu'on peut se poser? Comme un avion qui va se poser. Donc, quand vous parlez de dramaturgie, absolument. Il faut que ce soit un ballet très bien réglé. Parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup d'intervenants. Tout ça doit être parfaitement synchronisé, sous la direction évidemment du chirurgien, puisque c'est lui qui dit, on met la circulation extracorporelle en route, on fait ci, on fait ça. C'est le chef d'orchestre, si vous voulez. Bon, mais oui, c'est assez impressionnant. Et vous savez, moi je fais ça depuis tellement longtemps, mais je suis jamais désabusée. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Ça reste à chaque fois aussi extraordinaire de voir ça. Donc cette machine cœur-poumon va remplacer le cœur pendant le temps de l'intervention, qui fait que votre organe qui normalement est battant et plein de sang va être immobile et vide. Donc vous pouvez ouvrir et réparer.
Mais opérer un cœur, c'est tenir la vie directement dans sa main. Enfin, arrêter le battement, remettre en route. Oui. Est-ce que vous vous sentez un peu démiurge ? Vous n'êtes pas Dieu le Père, mais est-ce qu'il y a un petit sentiment comme ça de toute puissance quand vous faites ça ?
Non, je dirais pas de toute puissance, parce que c'est pas le chirurgien, c'est l'ensemble de l'équipe, c'est l'ensemble de l'évolution de ces gens extraordinaires qui ont été les pionniers de celui qui a inventé la machine de circulation extracorporelle, des premiers chirurgiens qui ont osé faire ça. Non, on est modeste vis-à-vis de tous ces grands pionniers, mais c'est vrai quand même qu'on se sent une responsabilité, incontestablement, avec des moments de grande émotion, quand les choses ne vont pas tout à fait comme on voudrait que ça se passe. Il faut dominer une émotion. Parce que moi, je dis toujours, on a le droit à une erreur, pas deux. C'est-à-dire, quand à la suite d'un problème, que ce soit une erreur ou pas une erreur, mais un problème qui se passe, en général, ce problème, on arrive à le dominer, à le résoudre. Mais il faut être très calme à ce moment-là, parce que si on s'affole, si on s'agite, si on peut ajouter un second problème au premier. Et là, avec deux, c'est beaucoup plus dur de s'en tirer. Donc, incontestablement, il y a une responsabilité que l'on sent du début à la fin. Et heureusement, souvent, je veux pas non plus affoler les auditeurs. Il faut pas imaginer qu'à chaque fois c'est Verdun, pas du tout. Heureusement, tout ça est très bien réglé. Aujourd'hui, la chirurgie cardiaque a quand même de très bons résultats. C'est bien, bien réglé. Mais comme vous pouvez l'imaginer, vous savez, encore une fois, je vais comparer à l'avion. Tous les vols, ça se passe bien. Puis le jour où il y a un problème, il faut quand même que le commandant de bord, il sache quoi faire. Et il ait les nerfs pour rester calme quand tout le monde commence à s'agiter. Voilà, c'est très comparable. Commandant de bord, c'est encore pire parce que lui, il a 300 personnes derrière lui, y compris lui.
Les qualités d'un bon chirurgien, alors c'est la patience, la concentration, c'est aussi la résistance. Il faut savoir gérer sa fatigue.
Oui. Alors très curieusement, quand on opère, on sent pas la fatigue, c'est après. On sent pas la fatigue, on sent pas la faim, on n'a pas de besoin particulier. C'est un peu un temps suspendu, même si les interventions sont longues. Mais il est certain que quand une intervention est longue, et à une époque elle l'était quand même beaucoup plus qu'aujourd'hui, où les choses ont quand même progressé, c'est vrai qu'il faut être tonique parce que c'est fatigant.
Et vous parliez des moments où ça marchait moins bien. Parfois, il y a même un gros problème et la mort peut s'inviter sur la table d'opération. Comment vous arrivez à maîtriser votre peur, votre angoisse? Est-ce que vous avez eu parfois peut-être la tentation du renoncement, de vous dire...
Non. Non. Perdre des malades sur table, bien sûr que ça m'est arrivé. C'est affreux. Mais renoncer, non. Pourquoi renoncer?
Une angoisse, une peur
de... Ah oui, non, une tristesse. Oui. Une infinie tristesse. On pleure, on renonce pas, on pleure. Mais vous voyez, vous m'en parlez, c'est tout juste si j'ai pas les larmes aux yeux. Bien sûr, on pleure. On s'en souvient, on est horriblement malheureux. Mais quand il s'agit d'un enfant, c'est pas tout d'être malheureux, il faut aller voir les parents après, qui attendent derrière la porte.
C'est de votre responsabilité aussi de...
Ah ben bien sûr.
D'aller vers les parents.
Ah bien sûr, oui. Ah oui, vous imaginez partir par une porte dérobée? Non. Non, non. Bien sûr, c'est... Alors, rassurez-vous, on ne va pas plonger dans la mélancolie, parce que vous allez me faire pleurer tout à l'heure, mais c'est rare et c'est de plus en plus rare. Mais oui, ça existe encore. Et vous savez, on opère aussi des choses de plus en plus compliquées, en particulier, moi je peux vous parler surtout des enfants, puisque c'est ceux dont je m'occupe. Il y a des cardiopathies très compliquées, qu'on essaye quand même d'opérer, parce qu'on se dit, si on ne fait rien, de toute façon c'est fini, autant faire quelque chose.
Et ces enfants qui ont plusieurs... maladie dont la maladie qu'on connaît plus, ces enfants qu'on appelle bleus, qui ont la tétralogie de Fallot, vous les ramenez à la vie aussi.
Ah oui, quelque chose, la tétralogie de Fallot, c'est miraculeux. Ça, j'en ai vu encore aujourd'hui. Vous seriez venu plus tôt. Il y a un petit garçon qui venait de Madagascar. Il est arrivé, il pouvait pas marcher. Sa famille d'accueil me l'a confirmé encore. Il pour arriver de la porte là jusqu'à mon bureau, il s'arrêtait 3 fois. Et là, il est arrivé avec sa patinette, il vient de s'acheter un ballon de foot. Oui, c'est une transformation. C'est une complète transformation. Et vous citez la tétralogie de Fallot, qui est effectivement la plus fréquente des maladies bleues, et aussi qui est la meilleure, entre guillemets, en ce sens que on la guérit, et on transforme totalement la vie d'un enfant, mais totalement.
Pourquoi vous avez choisi la chirurgie cardiaque pédiatrique? Pourquoi êtes-vous allée vers les enfants?
Écoutez, je suis arrivée donc à la ENEC chez mon maître Matet, et il y avait un merveilleux chirurgien qui s'appelle toujours Georges Lemoine, qui faisait les enfants. Et j'ai tout de suite apprécié cette chirurgie particulièrement minutieuse, soigneuse, la nécessité d'une bonne compréhension de la malformation. Enfin, voilà, j'ai voulu opérer des enfants à partir de ce moment-là.
Et le contact, du coup, avec les enfants, c'est aussi très, très spécifique pour un médecin. Je pense qu'il faut les apprivoiser, ces enfants.
Oui, c'est le contact avec les enfants, mais c'est, je dirais, presque encore plus le contact avec les parents. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec nos familles d'accueil, qui accueillent tous les... On en parlera, je pense, de tous ces petits-enfants qui viennent de loin. Vous imaginez ce que peut être l'angoisse de parents qui ont un enfant à qui on annonce qu'il y a une malformation du cœur et qu'il va falloir l'opérer. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, la cardiologie pédiatrique a beaucoup évolué, en ce sens qu'il y a maintenant dans la grande majorité des cas, des diagnostics anténataux. C'est pas constant, mais il y a beaucoup de diagnostics prénataux. Donc, dès que l'enfant naît, surtout s'il s'agit d'une malformation assez sévère, on l'opère assez vite. Donc, la chirurgie de l'enfant est devenue la chirurgie du nourrisson et c'est souvent aujourd'hui presque la chirurgie du nouveau-né. Ça, c'est dans nos pays. Maintenant, nous reparlerons de tous ces enfants qui viennent de pays lointains, qui n'ont pas ce diagnostic ni anténatal, ni même postnatal, avec une petite, évidemment, sélection naturelle qui se fait au départ. Et ceux qui survivent, il faut s'occuper d'eux, ils sont plus grands, ils ont des cardiopathies plus évoluées, et on voit des enfants, comme je vous disais tout à l'heure, ce gamin, ça se voit plus ça aujourd'hui en France, mais qui n'est pas capable de faire 3 mètres. Tellement il est bleu, tellement il est essoufflé, et il a survécu, et il a survécu. Et donc on va lui transformer sa vie maintenant.
Vous parlez, Francine Leca, du diagnostic prénatal. Il y a aussi des conséquences à ce diagnostic, c'est qu'il y a une possibilité aussi pour une mère d'interrompre sa grossesse.
Oui.
Est-ce que ça a changé quelque chose dans le rapport que vous aviez avec les parents? Et quelle a été votre position et votre attitude vis-à-vis de ça?
À l'époque, enfin quand je dis à l'époque, parce que maintenant, donc moi depuis que j'ai quitté ma chefferie de service et que je me suis vraiment consacrée à mécénat, donc avec, comme je vous le disais à l'instant, des enfants, d'abord les parents je les vois pas, ils restent au pays, je vois des familles d'accueil, puis c'est des enfants plus grands et des enfants souvent dans un état très précaire, enfin je dirais presque c'est presque une autre chirurgie. À l'époque, il m'arrivait de recevoir, à la demande des cardiopédiatres qui avaient vu, au cours d'une grossesse, qui avaient vu une maman qui attendait un enfant mal formé, avec une malformation cardiaque, de recevoir les parents pour discuter avec eux, leur expliquer les possibilités chirurgicales. Ce qu'il faut, c'est la plus grande honnêteté, bien sûr, ça va sans dire. C'est-à-dire, au départ, vous ne pouvez pas influencer des parents. Vous les recevez et vous leur dites, écoutez, voilà, on a diagnostiqué telle malformation. C'est quoi telle malformation? C'est voilà, le cœur il est comme ci, il est comme ça, il manque une cloison, il y a un vaisseau qui est trop petit, il y a un vaisseau qui est mal placé, enfin, voilà. Voilà les possibilités de la chirurgie. Et les possibilités de la chirurgie dans l'immédiat, avec ses risques immédiats, et puis la vie de l'enfant. Parce que le tout n'est pas de sauver un enfant, mais c'est de lui donner une bonne qualité de vie. Vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même très important, sinon essentiel. Donc on explique tout ça aux parents. En général, les parents que je recevais étaient ceux qui attendaient un enfant avec une cardiopathie assez sévère. Parce que si la cardiopathie est guérissable, bon, on leur dit, c'est guérissable, il continue la grossesse, on opère l'enfant, tout ça c'est beaucoup d'émotions, mais tout ça se finit bien. Mais pour des cardiopathies plus sévères, faut leur expliquer les tenants et les aboutissants. Et ensuite, c'est les familles qui décident. Elles décident en fonction de tas de critères. Beaucoup de problèmes religieux, interruption de grossesse, oui ou non. Beaucoup aussi fonction, est-ce qu'ils ont d'autres enfants, pas d'autres enfants. Ensuite, de l'entente des parents. Vous savez que c'est pas rare d'avoir des couples qui se séparent à la suite de la naissance d'un enfant qui a une malformation. C'est dur à vivre. Faut vraiment comprendre les parents. Donc on les écoute et il n'est pas rare qu'ils soient eux-mêmes dans l'hésitation. Que faire? On a beau leur expliquer, passer une heure à leur dire voilà comment est la malformation, voilà les probabilités que ça se passe comme ci, les probabilités que ça se passe comme ça, on leur dit tout bien. Mais il n'est pas rare que les parents disent qu'est-ce que vous me conseillez? Parce que ça aussi, c'est une des choses que j'aime infiniment dans ce métier de médecin, c'est que les gens mettent en vous une grande confiance. Et ça, c'est très, très fort et très émouvant et très responsabilisant. Je reviendrai sur ces parents qui posent la question pour vous citer une anecdote qui est arrivée plusieurs fois. Je recevais des parents qui ne me connaissaient pas et que je ne connaissais pas avant l'opération de leur enfant. On parlait, on discutait, etc. Et à la fin de l'entretien, plusieurs fois, des parents m'ont dit « Mais c'est bien vous qui allez l'opérer. » J'ai trouvé que c'était extraordinaire. Ces gens qui ne me connaissaient pas une demi-heure ou trois quarts d'heure avant. Mais on est pareil, hein. On est pareil. Si vous allez voir un médecin avec lequel vous avez une confiance, qu'est-ce que vous voulez, c'est que ce soit lui qui s'occupe de vous. Parce que vous avez parlé avec lui, parce que vous avez croisé son regard, parce qu'il connaît votre cas. Ce que je veux dire par là, c'est que la confiance, elle est essentielle et elle s'installe très vite. On peut appeler ça un fit, on peut appeler ça comme vous voulez. Il faut qu'il y ait une confiance. Je dis toujours que le malade et le médecin, c'est comme un couple. Qu'il y ait de la confiance, qu'il y ait de l'estime. Il faut qu'il y ait des sentiments forts. Et quand vous opérez des tout petits enfants, c'est avec les parents que ce rapport s'installe forcément. Plus l'enfant est petit, et moins, bien sûr, c'est adorable un petit bébé, mais qu'est-ce que vous allez lui expliquer? C'est pas... Bon, c'est les parents.
Vous donnez une image, Francine Leca, du chirurgien beaucoup moins froide que l'image qu'on peut avoir habituellement de quelqu'un extrêmement...
Mais non, mais ça c'est une mauvaise image, les chirurgiens ne sont pas froids. Ah, vous savez, les chirurgiens c'est comme les plombiers, les bouchers, les preneurs de son. Il y a des intelligents, il y a des bébêtes, il y a des gentils, il y a des désagréables, il y a des prétentieux, il y a de tout. Un chirurgien, c'est un homme, une femme, il n'est pas... Mais globalement, je peux vous dire que les médecins et les chirurgiens sont des gens qui aiment leurs malades, qui ont de l'empathie. Sinon, ils font un autre métier. Il y a quelques-uns qui sont froids, c'est vrai. Bon, mais faut changer. Vous avez le droit de changer.
C'est très complet comme métier, parce que c'est un travail manuel, mais c'est aussi extrêmement intellectuel parce qu'il faut ingurgiter beaucoup de connaissances aussi. Et puis, il y a cet aspect très humain. C'est très complet.
Ben, attendez, si un médecin n'est pas humain, alors... Il s'occupe de l'homme, c'est sa matière, l'humain. Quand vous ne voulez pas être humain.
Francine Leca, à demain.
Ce sera un plaisir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Claire Pouliborgeot avec Francine Leca. À voix nue, attaché d'émission Claire.Signon, prise de son Yves Lehorse, réalisation Rafik Zénine, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.